Le sacrifice d'Isaac est la transfiguration de Jésus. Deux textes très connus, mais qui, enfant, me plaisaient beaucoup. Tout d'abord, le sacrifice d'Isaac. Tous les ingrédients sont présents. Du suspense, qui va crescendo au fur et à mesure de l'ascension de la montagne, de l'action, des dialogues, et enfin, un happy end. J'aimais et j'aime encore les histoires qui finissent bien. Pas vous ? Et pour le coup, pour Isaac, eh ben, elle finit vraiment bien. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, surtout beaucoup d'enfants. Quant à la transfiguration de Jésus, c'était autre chose. D'abord, je m'identifiais aux disciples. Bon, certes, c'était uniquement des garçons, mais bon, il fallait bien faire avec ce qu'on avait. Donc, les disciples m'impressionnaient. Des personnes choisies, qui abandonnent tout, qui suivent Jésus et qui sont témoins d'événements incroyables, inexplicables. Dans ce texte de Marc, ils sont trois à suivre Jésus sur une montagne, et là apparaissent Élie et Moïse. Et puis, finalement, ils ne sont plus là. Enfin, les disciples sont témoins de la métamorphose de Jésus. Ils ne comprennent pas grand-chose. En plus, Jésus leur demande de ne rien raconter, de ne rien dire. Et là, finalement, c'était moi qui ne comprenais plus rien. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, impossible de comprendre comment on pouvait garder un tel secret. Comment garder une telle nouvelle sans aller en faire profiter un maximum de personnes ? D'autant plus que quelle contradiction avec la notion de témoin, de pêcheur d'hommes du début de leur rencontre avec Jésus. Bref, ces deux textes me parlaient et m'interpellaient déjà enfant. Et maintenant arrive le moment où, avec Francine, nous nous lançons dans l'exercice de la prédication. Et ces deux textes sont proposés dans les textes du jour. Au-delà du récit surnaturel de l'un et de la happy end de l'autre, ces deux textes sont venus naturellement en écho l'un avec l'autre. Et l'écho est un mot qui tombe à pic pour un culte que nous avons souhaité à deux voix. Ainsi, au cours de la préparation de ce culte, les idées de Francine se percutaient aux miennes, se répercutaient sur les miennes et résonnaient encore, et induisant de nouveaux échanges. C'est donc bien une vision double que nous vous proposons, illustrant la richesse de ces textes.
Parler de devant vous, quelle émotion, quelle épreuve, bien petite épreuve cependant, en comparaison à celle d'Abraham. Car dans le premier texte que nous a lu Dominique, Genèse 22, il s'agit d'une sacrée mise à l'épreuve. Récapitulons. Abraham est déjà depuis longtemps en lien avec Dieu. Il a déjà entendu Dieu plusieurs fois. Il a déjà été témoin et acteur d'événements extraordinaires qui sont venus métamorphoser sa vie. Et la naissance improbable de son fils Isaac en est bien entendu une partie. Dans le texte d'aujourd'hui, Dieu demande à Abraham de lui offrir en sacrifice Isaac. Demande incompréhensible. On lui offre un fils et finalement, on lui demande de le tuer. Enfin Dieu. Mais Abraham s'exécute, calmement. Aux questions de son fils, il ne répond pas évasivement ou par une autre question. Non, il se positionne déjà au milieu de son choix. Dieu est au milieu de son choix. Isaac lui demande « Où est l'agneau ?» pour le sacrifice. Abraham lui répond, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. Isaac se satisfait de cette réponse. Le calme de son père est certainement contagieux. En plus, Abraham fait participer Isaac à l'organisation logistique. Il est ainsi écrit, Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Est-ce que ça ne vous évoque pas quelque chose ? Un père, un fils, un agneau, un sacrifice, du bois, un fardeau. Et oui, comme pour vous, pour moi ce texte fait écho au sacrifice de Jésus sur la croix. Mais pour Abraham, Dieu retient sa main. Par contre, dans le cas de Jésus, vous le savez tous, le sacrifice ira jusqu'au bout. Dans l'évangile de Marc, juste avant le texte de ce jour, Jésus annonce sa mort et sa résurrection à tous les disciples. Mais dans Marc 9, seuls trois disciples sont témoins directs de la métamorphose de Jésus, annonciatrice, révélatrice de sa résurrection. Le voile se déchire. Au-delà du discours précédent, c'est une preuve visuelle, une révélation qui leur est donnée. Ainsi, contrairement à Abraham mis à l'épreuve, les disciples ont une preuve. Et pourtant, ils ne comprennent pas grand-chose, en tout cas certainement moins qu'Abraham.
Et pourtant, le cadre était là, était propice. Quoi de mieux qu'un sommet d'une montagne ? Lorsque la montagne apparaît dans la Bible, il faut tendre l'oreille. Dieu n'est pas loin. C'est le cas encore dans les deux textes aujourd'hui. Pour Abraham, Dieu lui demande de monter sur la montagne pour le sacrifice. C'est le lieu de l'épreuve. Dans Marc, il est question de Moïse et Élie, qui eux aussi ont été témoins de la présence de Dieu dans la montagne. Moïse parlait avec Dieu toujours sur la montagne. C'était le lieu de leur rendez-vous secret, de leur dialogue. Quant à Élie, il a senti Dieu dans un souffle léger, dans 1 Roi chapitre 19, également au sommet de la montagne, alors qu'il se cachait désespéré au fond d'une caverne. Et dans Marc, c'est bien au sommet d'une montagne, loin des regards, des masses, que la scène de la transfiguration de Jésus se déroule. La montagne est le symbole de l'éloignement du monde des hommes et du rapprochement de Dieu. Encore aujourd'hui, être en montagne, c'est être hors du temps. Pour ceux qui ont eu la chance de passer une nuit ou quelques jours dans un chalet d'alpage, isolé, sans eau courante, si ce n'est l'eau du récupérateur d'eau de pluie, et sans électricité, quelle expérience ! Expérience encore meilleure si on est accompagné d'adolescents du 21e siècle qui, obligés, consentant de laisser leur portable faute de réseau disponible ou de recharge possible, replongent très rapidement dans la joie simple des jeux de groupe et d'éveillé. La montagne, c'est aussi l'arrivée au sommet, après un départ difficile aux aurores, après avoir sué sur des pentes escarpées. C'est aussi avoir un autre regard sur le monde, avoir une vision panoramique, prendre un peu de hauteur et de distance. Bref, s'apaiser intérieurement pour laisser le silence extérieur prendre l'avantage et écouter simplement. La montagne est un lieu de silence où l'écoute est facilitée. Abraham est à l'écoute de Dieu, en lien direct avec lui. Oui, je t'écoute, prêt à entendre, mais aussi à agir, à servir. Dans d'autres traductions, le « je t'écoute » est traduit par « me voici ». Abraham est au service inconditionnel de Dieu. À la différence des disciples, apeurés, aveuglés, où la voix leur dit « écoutez-le, c'est le Fils de Dieu ». Les disciples sont encore en chemin. Malgré la preuve apportée, ils ne comprennent rien, trop effrayés. La même scène est racontée un peu différemment chez Matthieu, qui insiste, lui, sur la frayeur et le besoin de réconfort. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». En plus de leur incompréhension, ils ont pour ordre de ne rien dire, de ne pas parler, de ne pas échanger. Il n'y aura pas d'écho. Pourquoi ne rien dire aux autres ? Est-ce que les autres auraient été prêts à écouter, à entendre ou à comprendre ? Certainement que ce n'était pas le moment ou que rien ne devait empêcher les Écritures de se réaliser. Mais en même temps, Pierre, Jacques et Jean ont été témoins du changement d'état de Jésus annonciateurs de sa résurrection, mais eux sont encore dans l'incompréhension et dans la peur. Quel témoignage auraient-ils pu porter en étant de si piètres témoins, encore effrayés par ce qu'ils avaient vu? Cette peur n'est-elle pas révélatrice d'un manque de confiance?
Oui. Abraham, lui, avait aveuglément confiance en Dieu, une confiance absolue et aboutie. D'ailleurs, ne dit-il pas à ses serviteurs qui l'attendent « Nous vous rejoindrons » avant de monter au sommet de la montagne pour sacrifier son fils Isaac. Il n'utilise pas le « je reviendrai », mais bien le « nous ». Il sait qu'il ne redescendra pas seul. Abraham place Dieu, sa parole, au cœur de sa vie, en premier, dans sa relation avec les autres, avant même sa relation avec la chair de sa chair, son fils. Il va jusqu'au bout de l'obéissance. Comme les disciples, Jacques et Jean qui ont tout abandonné, leur filet de pêcheurs, leurs parents pour suivre Jésus, comme les disciples au début. Après, on sait que les questions, les doutes, l'incompréhension et la peur l'ont souvent emporté. Les disciples se sont cachés, ont trahi, ont renié Jésus, malgré l'annonce faite à plusieurs reprises de sa résurrection dans le texte d'aujourd'hui sur la montagne, mais aussi dans le chapitre précédent ou dans le chapitre suivant. Les disciples n'ont pas cru l'incroyable. Finalement, ce ne sont pas les disciples qui ont été les derniers témoins de Jésus en croix et les premiers témoins du tombeau ouvert. Le dernier témoin, c'est le centurion païen. Il est aussi le premier témoignage à l'égard de Jésus-Christ après sa mort, un témoignage spontané de sa divinité, exprimé avant même sa résurrection. Puis ce sont les femmes, à qui pourtant on n'avait pas apporté de preuves, qui sont restées au pied de la croix jusqu'au dernier souffle et qui sont venues au matin de Pâques pour s'occuper du corps. Ce sont finalement les femmes qui ont eu confiance jusqu'au bout. Les disciples ensuite ont bien sûr beaucoup d'autres occasions de prouver leur engagement et la confiance qu'ils portaient en Jésus, Christ ressuscité. Mais à ce moment crucial de la passion et de la résurrection du Christ, les femmes ont été les plus constantes. Comme on l'a entendu dans le texte de Genèse ce jour, la foi d'Abraham est mise à rude épreuve. Chaque seconde est un cadeau, mais une épreuve aussi. Aujourd'hui encore, il n'est pas forcément évident d'avoir une foi qui déplace les montagnes. Comment prouver l'existence de Dieu, la force de sa présence dans notre monde dit ultra-rationnel et qui est guidé par le « tout, tout de suite » Mais en fait, on peut apporter toutes les preuves possibles. Ce ne sont pas les preuves qui nourrissent la foi. L'attitude des disciples au moment de la passion et en miroir l'attitude des femmes le souligne. La foi, c'est croire sans preuve. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être sûr de ton amour. C'est la foi qui, tout en n'excluant pas le doute, c'est donc la foi qui nourrit la confiance. Alors nous disons, ose, osez, osons la confiance. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un morceau de musique. Excusez-moi.